Coué au cœur de l'info sur VOA.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington pour aborder le féminisme promu par des hommes de pouvoir. Car plusieurs dirigeants masculins se disent féministes et adoptent des politiques en faveur de la promotion des droits des femmes et de la parité. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau assume pleinement ce rôle et n'hésite pas à le revendiquer ouvertement, comme l'ancien président américain Barack Obama. En Afrique, certains chefs d'État comme Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Patrice Talon du Bénin, entre autres présidents, sont considérés comme féministes et se prononcent contre les injustices basées sur le genre. Alors les hommes peuvent-ils être porte-parole du féminisme selon vous? Quel est le rôle et l'importance du leadership masculin dans la promotion du féminisme? Faut-il passer par la voix des chefs d'État pour faire le plaidoyer des droits des femmes? Nous avons pour en parler avec nous des invités. Tout d'abord Tina Salama, qui est porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi. Tina, comment allez-vous?
Bonjour Nathalie, ça va très bien, merci. Une petite grippe, changement de saison, mais ça va.
Merci beaucoup d'être avec nous, Tina. On a également Minou Christelle, qui est chef de communication à l'Institut national de la femme de la présidence de la République du Bénin. Minou, comment allez-vous?
Je vais très très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis extrêmement heureuse. Merci.
Nous aussi, merci beaucoup Minou et Tina. Alors, des hommes qui font le plaidoyer des droits des femmes et des femmes qui traduisent la parole de ces hommes. C'est en quelque sorte ce que vous faites, mesdames. Et vous êtes d'ailleurs toutes deux issues du monde des médias, des communicatrices chevronnées. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner, l'une après l'autre, très brièvement, une définition du féminisme, une explication, car c'est un terme encore mal interprété. Tina.
Alors, c'est effectivement un terme très mal interprété aujourd'hui quand on se dit féministe, quand on veut parler du féminisme, c'est mal perçu, parce que beaucoup pensent que c'est une doctrine ou voilà un mouvement. Moi, je vais laisser à Madame Minou vous dire ce qu'est le féminisme. Moi, je vous dirais que ce n'est pas. Alors, c'est vraiment pas quelque chose que les femmes recherchent contre les hommes. Ce n'est pas les femmes contre les hommes. Voilà.
Donc, Minou, votre définition du féminisme?
Alors, pour moi, le féminisme, c'est un mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'argumentaires qui dénonce les inégalités faites aux femmes et qui énonce des modalités de transformation de ces conditions. C'est-à-dire que on demande une égalité en droit. Parce que d'habitude, en fait, des personnes disent que non, c'est pour monter sur la tête des hommes. C'est vraiment, beaucoup pensent que c'est un égo trip parce que l'égo est très mis en avant. Mais pourtant, le féminisme est là pour humaniser la vie des femmes et des filles en Afrique. On a besoin, en fait, du féminisme pour dire qu'on n'a pas le droit de tuer des filles, par exemple. Naître avec un vagin, ça ne veut pas dire en fait que c'est une malédiction, ça ne veut pas dire qu'il faut esclavagiser, ouais, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, qu'il faut taper et qu'il faut tuer.
On va rentrer dans le vif du sujet, Minou, hein, en quelque sorte, le féminisme c'est tout simplement de l'humanisme. Tina, vous avez dit sur nos ondes que l'actuel président de la République démocratique du Congo est féministe. Alors comment cela se traduit-il, des exemples de ce féminisme en ce qui concerne Monsieur Tshisekedi?
Alors depuis que nous avons le président Félix Tshisekedi, et c'est même pas moi qui le dis, c'est d'abord les statistiques côté gouvernement, il a exigé en tout cas sur les listes des partis politiques, des candidats pour les ministres, hein, qu'on puisse avoir plus de femmes. Il voulait un gouvernement, il voulait le rajeunissement et la féminisation du gouvernement, donc le premier quand il a accédé au pouvoir, donc il renvoyait les listes, hein, c'est ce qu'on disait en tout cas dans les réunions, quand les candidats ou les partis politiques arrivaient, il y avait très peu de femmes, sinon presque pas des femmes, et lui ne comprenait pas cela, il disait mais c'est pas possible, il faut tourner, chercher des femmes, je veux plus des femmes. Et donc on a vraiment vu le nombre augmenter dans le premier gouvernement, les deuxièmes encore plus, je crois qu'on est à à plus de 13% aujourd'hui, et ça c'est très bien, donc soit dans toutes les autres institutions, on voit qu'il y a quand même ce suivi, hein. Les gens veulent faire comme le président, on l'appelle le président les plus genrés. Alors, il a commencé, on va dire, d'abord dans son institution, c'est-à-dire à la présidence de la République. Alors, c'est la première fois de l'histoire de notre pays, qui a par exemple une femme porte-parole, ça n'avait jamais existé, qui a une femme directrice de cabinet adjoint, qui a autant de femmes avec des postes importants. Alors, on a une conseillère spéciale sur les violences basées sur le genre, on a une conseillère spéciale à la francophonie, une envoyée spéciale pour l'environnement. On a tellement des femmes avec des postes importants. Dans les collèges, il y a des femmes qui occupent des postes comme conseillère principale, ce qui n'était jamais arrivé. Donc alors, il a tenu dans sa maison, au gouvernement, et ailleurs, ça suit. Et puis, Nathalie, pas de moindre, quand il était président de l'Union africaine, tout de suite, il a organisé une grosse conférence sur la masculinité positive, et aujourd'hui, c'est le champion de la masculinité positive, reconnue par ses pairs africains. Ça, je vous en parlerai plus tard. Alors.
Merci beaucoup, Tina Salama. Minou, Christelle, vous, de votre côté, également, brièvement, comment se traduit, en quelque sorte, le féminisme du président béninois, M. Patrice Talon ?
Alors, le féminisme du président béninois Patrice Talon est du concret. C'est-à-dire que, déjà, quand il fallait aller défendre la loi contre le harcèlement sexuel des mineurs, et surtout, en fait, des enseignants et apprenants, c'est lui qui allait le défendre à l'Assemblée nationale. Et de deux, l'une des plus belles choses qu'il a faites, c'était de créer l'Institut national de la femme, rattaché à la présidence de la République, c'est-à-dire cette fois-ci qu'il implique pratiquement toutes les politiques, c'est-à-dire les ministres, les députés, et avec cette institution, ça a la charge de se spécialiser dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes masculines infligées aux femmes au Bénin, les discriminations, mais aussi la promotion de la femme béninoise. Donc ce qui fait en sorte que là, cette fois-ci, on a le politique, la tête même qui s'implique et qui est au four et au moulin, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui rende compte. Ce n'est pas comme les autres présidents, je suis désolée, mais c'est la réalité, qui vont laisser en charge et qui vont dire c'est une affaire de femmes. Là, il s'est rendu compte en fait que 90% des violences infligées aux femmes, c'était par le fait certes des hommes, mais c'est un problème systémique. Donc il faut que les hommes s'impliquent et il faut que la tête, normalement, la tête de l'État s'implique, et c'est ce qu'il a fait. Et il est toujours à côté pour, par exemple, à l'Assemblée nationale, il a fait voter une loi pour qu'il y ait plus de femmes. C'est-à-dire que pour qu'on ait de plus en plus vers une assemblée paritaire. Pour l'instant, c'est pas encore ça, mais en se rendant compte que les chiffres vers la visibilité des femmes au niveau politique, au niveau institutionnel, étaient très bas, il a tout fait, en fait, cette fois-ci, il a exigé maintenant qu'il y ait des types de femmes compétentes, parce que c'est très important de le mettre, au même titre que des hommes compétents. C'est pas juste pour les beaux yeux, c'est pas juste par nomination politique ou reconnaissance politique, on y est parce qu'on apporte quelque chose, on met des têtes bien faites, et surtout, au Bénin, sachant qu'il y avait un taux très bas de filles à l'école est gratuite pour les petites filles, jusqu'à l'université.
Ouais. Merci beaucoup Minou, Christelle, vraiment je comprends pourquoi il vous a choisi, en effet. Alors Tina Salama, est-ce que c'est important ou essentiel, voire normal pour vous qu'un chef d'État soit féministe ?
Je pense que oui, parce que le chef de l'État, un président de la République, c'est lui le premier des citoyens, comme on dit ici. Hein, c'est lui qui incarne la politique d'un pays. Voilà, tout le monde est là à le regarder, c'est vraiment cette pyramide-là. Et je pense que s'il ne l'est pas, parce que les causes des femmes, qu'on se le dise aujourd'hui, sont encore... Il y a encore beaucoup à faire, il y a tellement de choses à faire, et on a besoin aujourd'hui, surtout en Afrique, d'avoir des chefs d'État qui comprennent cela. On a besoin d'avoir des chefs d'État qui soutiennent les femmes, qui font la promotion du genre pour lutter contre les inégalités. Donc pour moi, un président doit être, en tout cas, si peut-être pas féministe, mais je pense qu'on a très bien défini le féminisme, Madame nous l'a bien dit, il doit en tout cas être sensibilisé ou sensible sur les causes féminines.
Restez avec nous, Tina Salama et Minou Christelle. On va écouter deux auditeurs. D'abord, Junior Bompong. Il est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et Lati, qui est à Lomé, au Togo. D'abord, Junior.
Il est très important de noter qu'il y ait la promotion de l'égalité des sexes nécessite une mobilisation collective et une prise de conscience généralisée de la part de tous les individus, quels que soient leur genre et leur position sociale. Je m'expliquer pourquoi. Parce que les dirigeants masculins eux aussi ont un rôle important à jouer dans cette lutte. Et ils ont souvent plus de pouvoir et d'influence dans la société. Et je crois que leur soutien public peut encourager davantage les personnes à s'engager dans la dynamique de la promotion de l'égalité des sexes. Il serait également important que les femmes et les voix féminines soient au premier plan de la lutte pour l'égalité des sexes et que leur leadership soit reconnu et valorisé. En fin de compte, la lutte pour l'égalité des sexes doit être menée par l'ensemble de la société afin de garantir que les droits des femmes et des filles soient respectés et que leur potentiel soit pleinement réalisé.
À mon avis, un chef d'État n'a pas besoin de se découvrir féministe avant d'adopter des réformes allant dans le sens de la promotion du leadership féminin. Un chef d'État a pour mission de gouverner pour l'amélioration des conditions de vie de toute la population. Il est là pour l'intérêt général. Le leadership féminin ne se construit pas seulement dans la nomination des femmes au perchoir, à la primature ou bien dans les différents postes ministériels. C'est depuis la base qu'il faut promouvoir l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons.
Voilà, vous écoutez à votre avis avec Nathalie Barge. Nous avons comme invité Tina Salama et Minou Christelle. Alors, Minou Christelle, on entend dire hein, ici et là que certains présidents entrent dans le créneau du droit des femmes pour satisfaire les bailleurs de fonds ou pour raisons électorales. Qu'auriez-vous à répondre à cela ?
Alors, c'est vrai sur certains plans, on va être honnête, politiquement, il y a certains qui se servent des femmes. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, parce que avant, normalement, que ça soit mon patron, c'est une personne que j'ai admirée parce que lors de mon entretien, c'est un peu secret, mais j'ai besoin d'en parler parce que c'est ça qui a fait balancer la, c'est ça qui a fait pencher la balance. On a plutôt eu un président qui était vraiment soucieux, qui se disait le jour où j'aurai le pouvoir, je vais essayer normalement de faire changer les choses. Là, on est carrément sur un président qui va aller à l'encontre normalement des traditions de son pays. Et là, c'est quelque chose qui est assez différent parce que quand même, les traditions où la femme est sous l'homme et le poids, ce poids est très 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 perçu ici en Afrique. Donc venir en fait bouleverser l'ordre des choses, c'est s'attirer des fautes et peut-être même pas en fait normalement un futur électorat. Mais là, chez nous, ici au Bénin, on a un président qui a décidé de lancer un coup vers la fourmilière et se dire, il faut que les choses changent parce que le développement d'un pays va quand même avec les deux cerveaux. On ne peut pas continuer à servir la femme ou bien de la laisser sous des traditions mercantiles, mais maintenant pour pouvoir évoluer, il va falloir que la femme ne soit pas juste au foyer, mais qu'elle participe intellectuellement, qu'elle arrive en fait à être indépendante financièrement pour construire la société et la famille. Donc ce qui fait en sorte que chez moi, j'ai la chance de travailler avec un président qui est vraiment soucieux de l'humanité de la femme béninoise et par ricochet, si tout se passe bien, de la femme africaine.
Merci beaucoup Minou Christelle. Tina Salama, certaines féministes qui militent activement estiment que beaucoup d'hommes jouent le jeu du féminisme pour charmer les femmes ou avoir une voix au chapitre de l'histoire, car c'est la tendance. Ce type de comportement est-il possible selon vous? Autrement dit, peut-on être un féministe hypocrite?
De manière générale, je pense que oui, mais écoutez Nathalie, qu'on se le dise, hein, tant que ça nous profite, tant que ça fait ou ça peut faire avancer la cause de la femme, eh ben pourquoi pas. Voilà. Mais je pense que oui, ça se fait, hein, que ce soit pour les causes des femmes ou pour d'autres causes, pour l'environnement, pour voilà, beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a des gens qui en profitent, absolument. C'est clair. Mais je pense qu'à un moment, si vous n'êtes pas vraiment plein dedans, si ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous est qui vient de votre cœur, à un moment, ça se voit. À un moment, ça se sent. Donc, ne peut pas être féministe vraiment qui cherche des intérêts comme ça, égoïste ou hypocrite. Je pense que ça finit par se savoir, si vous l'êtes réellement. Voilà.
Minou Christelle, pourquoi selon vous il y a si peu de femmes dirigeantes féministes finalement, hein, ou en tout cas très discrètes hein, sur les droits des femmes? Est-ce des choix politiques selon vous ou est-ce simplement parce qu'elles sont moins nombreuses ou moins médiatisées? Bon, on en a quelques-unes actuellement, hein, qui se Jacinda Ardern notamment, hein, l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande. Bon, par exemple, on peut avoir des déceptions. Angela Merkel, elle n'est pas si féministe que ça. Est-ce que Ellen Johnson Sirleaf l'a été? C'est la question qu'on se pose aussi. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ces questions-là?
Le problème, c'est qu'il y a une énorme réalité dans le monde politique qui est très sexiste. D'abord, il faudrait l'ajouter. C'est-à-dire que beaucoup ont besoin, en fait, ici en Afrique, on introduit les femmes pour faire plaisir. Mais en fait, on ne leur donne pas le pouvoir. Et celles qui sont maintenant au pouvoir ont besoin quand même, en fait, de la voix majoritaire des hommes qui sont politiques. Et il faudrait normalement, en fait, un peu plus d'éducation pour pouvoir pousser les choses. Elles essayent de faire tant bien qu'elles peuvent. Et certaines, justement, c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles soutiennent, en fait, certains droits des femmes. Il y a, en fait, celles qui ont la misogynie et le sexisme intériorisé. C'est-à-dire qu'elles viennent, en fait, normalement pour les infrastructures et considèrent, en fait, que ce n'est pas de leur ressort à elles puisqu'il y a déjà des défenseurs, en oubliant que normalement, le féminisme est politique. C'est parce qu'on n'a jamais pris la dimension politique, parce que toute décision politique a une incidence importante dans la vie des femmes, comme par exemple le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'en fait, le corps des femmes appartient aux femmes, mais c'est devenu un droit que des hommes, normalement, en majorité, votent pour des lois qui peuvent être très, 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 qui peuvent être très, très mauvaises pour les femmes. Pareil pour l'éducation, donc, ou bien pareil pour les mariages forcés. Et ça, ce problème-là, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu une éducation politique pour qu'il y ait plus de féministes politiques. Il y a beaucoup d'activistes féministes, mais très peu de politiciennes féministes, en fait. Il y a plutôt des femmes, surtout en Afrique, qui sont mises en avant pour des choix politiques, mais qui n'ont pas ce féminisme. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des politiciennes, des nominations politiques dans certains pays. Parce que ici, quand même, je suis très contente d'avoir des féministes, parce que, par exemple, nous avons la ministre des Affaires sociales à Mass, Madame Véronique Tony-Faudet, qui est une pure féministe. On a, par exemple, une nomination comme Maître Boktek, qui est une pure féministe, la présidente de l'Institut National de la Femme, mais qui est aussi politique. On a eu Marie-Élise Beydeau, qui était, en fait, normalement aux élections présidentielles, qui est une très grande féministe et qui a fait avancer normalement le droit des femmes. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de femmes qui arrivent dans le côté politique. C'est pour ça que je faisais comprendre aux jeunes femmes qui sont féministes qu'il va falloir toucher le côté politique, parce que le féminisme est politique. On a oublié ça, en fait.
Merci beaucoup, Minou, Christelle et Tina Salama. Restez avec nous, on va encore écouter deux auditeurs. C'est Jean-Louis, tout d'abord, qui est à Kigali, au Rwanda, et Jean-Étienne, ensuite au Togo.
Moi, je pense à un pays comme la Tunisie qui m'a fasciné à une certaine époque. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je pense au président Habib Bourguiba, qui a été un avocat tunisien, qui a été un leader nationaliste, qui a été premier ministre de 1956 à 1957, et puis président du 25 juillet 1957 au 7 novembre 1987. La Tunisie a fait des avancées immenses dans le domaine des droits de la femme. Il y a peu de pays qui peuvent comparer en Afrique, mais maintenant, ça semble perdu avec les idées qui sont liées à la religion et tout cela. Je pense à notre pays, un pays que j'ai découvert récemment, un pays dans lequel je vis, le Rwanda. Le Rwanda a connu le génocide contre les Tutsis, donc la structure familiale a été complètement éclatée, c'est-à-dire les hommes, pour la plupart, ont été tués les premiers, massacrés les premiers. La société a dû être reconstruite. Et pour le cas du Rwanda, il détient le record jusqu'à présent du plus grand nombre de dames au niveau de l'Assemblée. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des actions avec des quotas pour certains domaines pour permettre à la femme en général d'évoluer.
Les hommes sont prêts à promouvoir le féminisme en Afrique. Non seulement le président Tshisekedi est parti de salon, il y a également le président togolais François Zenanya Simbi qui a placé une bonne partie des femmes dans le gouvernement et dans des postes de responsabilité ici au Togo. Mais quel est le résultat? Parmi toutes ces femmes qui occupent des postes de responsabilité, il n'y a que la madame le premier ministre qui fait valoir sa voix, qui fait valoir le genre féminin ici au Togo. Le pourcentage des femmes qui se battent pour faire valoir leur voix est très faible. Nous devons d'abord voir la mentalité de la femme africaine qui veut être dépendante toujours des hommes, qui veut que tout vienne de l'homme. Alors, quel que soit l'effort que l'homme fait pour promouvoir la valeur du genre féminin, tout l'effort revient à zéro.
Voilà, nos auditeurs donc au Togo, c'est Jean-Étienne, Jean-Étienne qui a cité notamment effectivement la première ministre togolaise, Victoire Toméga Dogbé. Alors Tina Salama, vous vous exprimez librement sur les questions féministes avec nous notamment, et vous êtes porte-parole du président congolais. Est-ce une question de confiance entre vous et lui? Une stratégie féministe, va-t-on dire?
Non, je pense que comme je l'ai dit,
mon président n'est pas cette catégorie de, je sais pas, hypocrite féministe. Non, pas du tout. Je crois que c'est vraiment lui et c'est connu. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas le cacher longtemps. Non, je ne pense pas que ce soit une stratégie féministe. Non, vraiment question de confiance, question de parcours professionnel aussi. Hein. Moi, j'étais longtemps journaliste hein, ici au Congo, donc un peu connu, on va dire. Je travaille aux Nations Unies, pour la radio des Nations Unies. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai connu. Donc, je pense vraiment que c'est d'abord par rapport à mon parcours professionnel que j'ai été choisie. Et bien évidemment, question de confiance, parce que vous ne pouvez pas donner votre parole à quelqu'un à qui vous ne faites pas confiance. Voilà. Et effectivement, beaucoup pensent que ce soit une femme.
Merci beaucoup, Tina Salama. Minou Christelle, hein, de nombreuses femmes argumentent contre le féminisme, hein, ce qui ne fait pas avancer d'ailleurs les droits des femmes. Et c'est une réalité, notamment en Afrique, est-ce la culture, la tradition hein, qui les empêche de reconnaître l'émancipation féminine, ou est-ce plus complexe que cela?
En fait, c'est complexe. C'est aussi à cause normalement de la culture sexiste, hein, c'est de la misogynie intériorisée, c'est-à-dire que beaucoup sont encore ont encore l'importance d'un mariage et du regard de la famille et de la société, parce qu'aller à l'encontre, c'est quand même perdre certains acquis comme le support de la famille, c'est perdre parce qu'on nous a dit nos parents ce sont nos dieux, on leur doit du respect, même si des fois ils nous font du mal, parce que beaucoup de parents font du mal à leurs enfants. Quand on frappe une femme et qu'à un moment elle va et court dans les bras de sa mère ou de son père et qui lui dit de retourner dans le foyer violent, quitte en fait à préférer qu'elle meure sous les coups que qu'elle revienne avec, entre guillemets, ce pseudo-divorce, cette honte du pseudo-divorce, il y a ce problème-là. Mais par contre, ce que j'ai découvert avec le temps, parce que je suis une survivante de violences conjugales, c'est que les femmes ont besoin de voir des femmes qui brillent. Quand des femmes ont des histoires comme elles, qui sont mises en avant et qui changent en fait le narratif de la souffrance en victoire, il y a un déclic qui se passe dans la tête. C'est qu'on reste toujours en fait sur la culture de la souffrance de la femme et on oublie de mettre en avant les femmes qui ont un dynamisme et un positivisme en fait au devant, qui en fait normalement s'affranchissent de ces problèmes sexistes et misogynes et qui arrivent en fait à changer le narratif.
Ouais. Je suis obligée de vous arrêter là parce que je voudrais qu'on écoute deux auditeurs avant de vous poser une dernière question à toutes les deux. On écoute Franklin qui est au Cameroun et Omar Hassan ensuite.
Il y a aussi des femmes qui doivent être les porte-parole des femmes. Donc, nos présidents n'ont pas le droit d'être les porte-parole des femmes parce que le fait de convaincre les femmes, c'est très facile pour un chef d'État. Donc, je crois que c'est inadmissible pour que les chefs d'État deviennent comme les porte-parole de la femme. Ça doit être une femme qui doit être la porte-parole des femmes.
La femme a le droit de faire les mêmes choses que les hommes, mais dans la mentalité de la femme africaine, c'est inculqué que l'homme est supérieur à elle. Donc, quel que soit l'effort que l'homme fait, quel que soit ce que l'homme fait, pour faire comprendre la femme qu'elle est au même pied d'égalité que l'homme, elle acceptera, oui, mais dans sa tête, dans son fort intérieur, ce n'est pas confirmé qu'elle est au même pied d'égalité que l'homme. Et par conséquent, il y a des choses qu'elle n'ose pas le faire parce que pour elle, c'est l'homme qui doit le faire.
Voilà une réflexion intéressante. Une dernière question à vous toutes les deux, très rapidement, Tina Salama et Minou Christelle. Hein, de nombreuses femmes qui occupent des postes à responsabilité en Afrique au sein de gouvernements ou d'assemblées sont féministes, mais prêchent malheureusement souvent dans le désert. Alors qu'auriez-vous à dire aux hommes de pouvoir qui les entourent pour leur faciliter la tâche?
Moi, je n'ai pas compris la question, Nathalie.
Oui. Qu'auriez-vous à dire aux hommes de pouvoir qui entourent des femmes qui prêchent un petit peu dans le désert, qui sont à des postes à responsabilité, mais qui ne sont pas entendus?
Des hommes qui ne sont pas entendus?
Non. Des femmes qui sont féministes et qui travaillent au sein d'assemblées, au sein de mouvements politiques, au sein de gouvernements, comme tout à l'heure Minou Christelle en a cité, et qui en réalité ne sont pas entendues par leurs collègues. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux hommes de pouvoir qui les entourent pour leur faciliter la tâche?
Je pense que c'est encore un combat. Moi qui suis aussi dans ce milieu-là, je pense que c'est pas gagné du tout. Il faut continuer, il faut parler, il faut sensibiliser. Il faut aussi faire adhérer d'autres femmes à cette cause-là, qu'elles comprennent, comme je l'ai dit l'autre fois sur vos antennes, qu'il y a aussi ce problème-là des femmes qui ne sont pas solidaires envers d'autres femmes qui sont qui militent pour cette cause-là, peut-être parce qu'il y a ce qu'on a, les problèmes culturels, on va dire, religieux. Il y a beaucoup de pesanteur. Donc, au fond, ce sont les systèmes qui doivent changer. Il doit y avoir des réformes, des vraies lois.
Malheureusement, Tina Salama, c'est la fin. Minou Christelle également, merci beaucoup à toutes les deux. C'était avec vous, Nathalie Barge, à la production, Michel Joseph. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.